Chapitre 4. L'étrange Stovein. Martin Humain me dit un matin : J'en ai assez d'être mort. J'ai envie de redevenir vivant. Et pour cela, il voulait frapper un grand coup. Attendons, dit-il, que messieurs les assassins commencent. Il ne devait pas tarder à venir voir cette affaire. Un matin, Paris apprit la mort bizarre d'un courtier en diamants et pierres fines très connu à Paris, qu'on appelait familièrement le père Stovein. C'est en appartement qu'il opérait. C'est-à-dire que chez lui venaient les clients, marchands ou acheteurs, les trafiquants de toutes sortes qui font le commerce de la pierre fine. Il faisait aussi commerce d'or et de bijoux. Souvent, il traitait une affaire de pierre, de perles sur du papier, c'est-à-dire sans monture, sans trop s'enquérir de la provenance de ces perles. De même qu'il achetait un lingot d'or sans demander très sérieusement ce qu'était ce lingot avant d'être fondu, sans chercher à savoir si ce lingot n'était pas tout récemment encore un bijou, et à qui appartenait ce bijou avant d'être transformé en lingot et de se trouver dans les mains de ceux qui aujourd'hui le lui offraient. Bref, on prétendait que le père Stovein faisait le recel, mais jamais on n'avait pu le prendre en défaut. On affirmait qu'il possédait une très grosse fortune. Chaque après-midi, il se tenait chez lui, rue Mogador, à la disposition de ses clients, vendeurs qui venaient lui offrir des perles, des pierres, ou acheteurs, monteurs, bijoutiers, simples particuliers, accouraient chez lui s'approvisionner. Car chez lui, on était à peu près sûr de trouver le diamant égal, la perle jumelle nécessaire pour une parure, qu'on n'eût pas rencontrée ailleurs. Dans la matinée, le père Stovein, ayant à la main un petit sac de cuir, toujours le même, s'en allait rue Lafayette, à la bourse aux pierres, qui se tenait dans une brasserie. C'était un petit bonhomme, d'origine imprécise. En vérité, personne ne savait qui il était, et son accent était assez bizarre. Stovein n'était peut-être même pas son nom. C'était un de ces êtres mystérieux qui, connus de tout le monde, ne sont connus réellement de personne et qui passent dans la vie sans s'y mêler, semblent vivre au grand jour et ne sont que des énigmes vivantes que jamais on ne déchiffre totalement. C'était le père Stovein, et depuis plus de 30 ans, c'était pour tous le père Stovein. Donc, le matin, il allait à la bourse aux diamants régulièrement. Il allait aussi, quand ça en valait la peine, qu'il avait connaissance de quelque chose d'intéressant, aux ventes du Mont-de-Piété ou à l'hôtel Drouot, lorsqu'une vente de bijoux était annoncée. Chez lui, très méfiant, il recevait les clients dans une petite pièce, coupée en deux par une barrière en bois formant pupitre. Derrière cette barrière, le père Stovein se tenait. La barrière était reliée au plafond par un grillage solide en cuivre que perçait une petite porte formant guichet par où se faisaient les transactions. Assis devant une table en bois peinte en noir sous laquelle se trouvait une balance à trébuchet et un flacon d'acide et une pierre à essayer les bijoux, puis des loupes, le père Stovein faisait ses marchés, laissant de l'autre côté de la grille ses clients debout. Jamais personne n'avait franchi cette grille, n'était entré chez le père Stovein, ne connaissait sa demeure. Personne n'avait pu surprendre quoi que ce soit de sa vie de l'autre côté de cette grille. À partir de là, c'était l'inconnu. Avant cette pièce se trouvait une petite antichambre sombre où se tenaient les clients, attendant leur tour. Le père Stovein n'admettait dans ce qu'on appelait son bureau qu'un client à la fois, et on devait, en entrant, bien fermer derrière soi la porte pour que les autres clients n'entendissent pas ce dont on allait parler. D'ailleurs, les clients ne s'attardaient pas dans le bureau. Ils faisaient un prix, et il n'y avait ni à discuter ni à marchander. Si ça ne convenait pas, on pouvait s'en aller. Le père Stovein ne revenait jamais sur son prix. « Je suis désolé, » disait-il. « Ce sera pour une autre jour. Bonjour. » Et il appelait de sa voix pointue, nasillarde, « Les suivants !» La porte du bureau était bardée de fer. La porte d'entrée de même est agrémentée de serrures énormes. Les croisées portaient aussi des barres de fer. L'appartement semblait inviolable. Cependant, un jour, les clients trouvèrent la porte d'entrée fermée. Ils tapèrent à la porte, sonnèrent, appelèrent. Ils n'obtinrent aucune réponse. Aussitôt, on pensa que le père Stovein, très âgé, était peut-être souffrant, très malade ou mort. À son âge, il fallait s'attendre à une surprise de ce genre. Le commissaire requis décida de faire enfoncer les portes. Quand la dernière porte fut forcée, un spectacle auquel on s'attendait presque apparut alors. Par terre, le père Stovein était étendu, tout habillé, comme s'il venait de rentrer ou s'il allait sortir. Rien dans la chambre ne semblait avoir été touché. Pour tout le monde, le père Stovein était mort subitement, d'une mort naturelle. Le parquet prévenu arriva, et la préfecture de police suivit. L'enquête commença, qu'on pensait devoir être bientôt close. Chacun croyait à un anévrisme, à une attaque, à un coup foudroyant. Sur une chaise, la fameuse petite sacoche de cuir dans laquelle le père Stovein, comme tous les marchands de pierre, mettait ses objets de négoce, se trouvait simplement posée. La sacoche était vide. Seulement, nul ne pouvait dire si le père Stovein l'avait vidée ou se disposait à la remplir. Un coffre-fort massif se trouvait dans cette chambre, dans laquelle il y avait aussi le lit en fer, étroit, plat, dans lequel couchait le marchand de diamants. Les magistrats examinèrent le coffre-fort. Il était fermé. Il ne portait aucune trace d'effraction. Toute idée de crime devait être écartée. On porta le cadavre sur le lit et le médecin l'examina. « Congestion, » déclara-t-il. On ne connaissait aucun parent au père Stovein. On fit passer dans les journaux une note annonçant le décès. Cependant, la découverte du cadavre parvenait aux oreilles de Martin Numa. Il fit indirectement, bien entendu, soulever quelques objections, émettre quelques doutes par le parquet et poussa les agents à parler de crimes probables. Puis il fit désigner Prosper pour suivre cette affaire et lui-même s'arrangea sous un déguisement quelconque pour accompagner sans être reconnu son second dans ses recherches. Martin Numa connaissait de réputation le père Stovein. « Je me souviens, dit-il, que nous avons eu à diverses reprises il y a longtemps quelques soupçons sur cet homme. D'ailleurs, sa vie est trop mystérieuse. Je ne suis pas fâché de voir un peu ce qui se passait chez lui. » En principe, Martin Numa se méfiait des gens dont la vie n'était plus claire et ne se passait pas au grand jour. Il avait pour principe qu'il se cache à quelque chose à ne pas laisser voir. Depuis longtemps d'ailleurs, il tenait le père Stovein à l'œil, selon l'expression de la police. Jusqu'ici, le père Stovein n'avait pu démontrer sa parfaite innocence. Jamais on ne l'avait inquiété. « Mais cela ne prouve rien, » affirmait Martin Numa. « Prouver qu'on est innocent ne veut pas dire qu'on n'est pas coupable. »